l'économie sur Radio Lac et les chaînes Carac, avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève.
Comment est-ce que les incubateurs et les accélérateurs soutiennent l'innovation ainsi que la croissance des startups à Genève? Et bien, on a des réponses avec Pauline Zalaoui, la directrice commerciale de la CCIG, avec Alexandra Osvat, la responsable marketing et communication de la Fongit, Caroline Widmer, directrice de Pulse, incubateur HESSO Genève, et Younes Yaksha, le fondateur et directeur de Lime. On parle de beaucoup de choses, des projets aussi concrets. Je ne vous cache pas qu'on en parlait hors antenne, et Pauline Zalaoui, vous nous rappeliez quelques-uns des projets qui sont nés de ces incubateurs et accélérateurs assez formidables.
Absolument, ou qui ont été, après leur naissance, accélérés, si je puis dire, grâce notamment à la Fongit. Il y a un projet qui s'appelle Hero Support, notamment, qui soutient les femmes atteintes de cancer du sein. C'est un projet qui a été mené avec l'hôpital universitaire de Genève, dans l'optique d'aider les femmes avec une table d'examen et de traitement qui est tailor-made, qui est faite vraiment au design de la forme morphologique des femmes qui sont traitées. Et ça, c'est un projet qui a été aussi accéléré après avec la Fongit. Et puis, plus récemment, le projet ICAP, qui était accompagné par Pulse Incubateur, dont l'objectif était de pouvoir donner des yeux aux personnes à déficience visuelle, pour qu'ils puissent notamment aller à la piscine avec des capteurs sur un bonnet de bain qui leur permettait de s'orienter dans la piscine et de faire des longueurs comme tout un chacun. Et ça, je trouve que c'est dans les deux cas, on parlait d'inclusivité tout à l'heure, et c'est aussi, je trouve, l'intérêt de ces jeunes générations qui s'intéressent à la possibilité de donner à tous accès à des choses somme toute normales, classiques.
Ce qui semblerait logique, oui, exactement. Effectivement. Et on voit bien aussi des ordres de projets très différents.
Et engagés, surtout. Engagés socialement.
Complètement. Donc voilà des exemples très concrets que l'on finance aussi grâce à des partenariats publics-privés, j'imagine.
C'est ça, absolument, oui.
C'est le cas aussi pour vous chez Lime?
Non, c'est très très privé.
C'est pour ça que je vous regarde.
C'est très privé, et puis notamment, l'une des meilleures startups qu'on a qui s'appelle Cyclem, qui est le vintage suisse. Ils sont en train de lever des fonds, ils ont déjà levé une bonne partie de leur round, et c'est que privé.
Alors, pourquoi vouloir faire typiquement, et ça je pense que c'est un bon exemple, un vintage suisse? Il y a un vintage qui existe, est-ce que le but c'est d'être racheté par une plus grande marque? Est-ce que le but c'est d'aller chercher après d'autres terrains? C'est quoi la possibilité d'expansion pour une marque comme celle-là?
En Suisse, il n'y a pas énormément de copines vintage, donc il y en a deux ou trois, mais qui sont basées essentiellement en Suisse alémanique. En Suisse romande, il n'y en a pas encore, et d'où une superbe expansion, vu que Cyclem, ils sont quand même dans 24 cantons, avec plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. Et donc, c'est quand même pas mal pour une plateforme digitale. Et puis, l'idée, c'est après de pouvoir voir en termes d'exit, parce que c'est vrai que d'aller concurrencer un Vinted hors Suisse, c'est très compliqué. Et notamment aussi quand on parle de ces boîtes ou même des Zalando, je crois que Zalando, ils sont rentrés en Suisse avec 2 milliards de francs suisses, donc c'est très, très compliqué à matcher. Mais si on a une niche, si on apporte quelque chose avec de la valeur et aussi travailler avec le cœur, on arrive quand même à se développer.
Et on en revient, Cyclem, seconde main dans l'air du temps, etc. etc.
Exactement. Et
d'ailleurs, même Vinted, qui est très connu, on pourrait croire que c'est une grosse boîte américaine ou quoi. Pas du tout, c'est lituanien.
Exact.
Et après, ils ont gagné tout un marché. Donc là, c'est très privé, alors que vous êtes plus dans le public et privé. Est-ce que ça change la manière dont on approche les projets et celles et ceux qu'on accepte d'accompagner?
Nous, c'est vrai qu'on travaille quand même. On essaye de pousser aussi les projets à aller chercher des fonds chez InnoSuisse. InnoSuisse, qui est l'organe de soutien à l'innovation de la Confédération, qui a plein de stades différents de financement. Donc, nous, il y en a beaucoup qui ont obtenu des chèques InnoSuisse qui sont de l'ordre de 15 000 francs, qui sont vraiment le montant qui va permettre de faire l'étude de faisabilité, notamment avec les labos de l'école d'ingénieurs, l'EPIA. Donc, c'est ce qu'a fait ICAP, par exemple. Après, pour le stade suivant, il faut quand même avoir des projets qui sont, comme on dit, scalable. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir une croissance assez rapide. Et ICAP, typiquement, étant un projet quand même de niche à impact social, ils n'ont pas obtenu cette suite de financement. Et je pense que, par contre, c'est pour certains projets, et quand il y a un lien avec le monde académique, de passer par le soutien de l'innovation au niveau de la Confédération, c'est aussi un très bon levier pour les projets.
Quand on parle de lien avec le monde académique, on parle de quoi, par exemple, concrètement?
Je donne un exemple très concret. ICAP, c'est une équipe qui sont venus de la Haute École de Gestion. C'était leur travail de bachelor. Ils ont rencontré une sportive de haut niveau qui était avant aveugle qui a trouvé leur projet fantastique et est devenue l'ambassadrice. Et quand ils sont arrivés chez Pulse, on a trouvé l'équipe géniale, le projet très intéressant, mais ils n'avaient aucune compétence technique. Donc on les a mis en contact avec les laboratoires de Delphine Bégevet, qui est une professeure de l'EPIA, qui a mis un de ses collaborateurs sur l'étude de faisabilité. Donc c'est vraiment des professionnels de l'ingénierie, de l'électronique, des puces, qui a pu vraiment faire cette étude grâce au fonds du chèque InnoSuisse. Et puis après, pour aller plus loin, bah, c'est carrément un projet à 200 000 francs qu'il faut mettre sur pied. Et ça, c'est aussi avec les ingénieurs. Et là, la beauté de ce projet, c'est qu'il y avait une designeuse de la HED, Sarah Bounab, qui était aussi présente dans l'incubateur à ce moment-là, qui, elle, est intervenue pour le prototype. Donc c'est vraiment ce mélange, en fait. Et c'est vrai qu'on en est un peu à la partie des partenariats, finalement, des collaborations. Et c'est ça qu'on essaye de créer, c'est des synergies entre les gestionnaires, les développeurs, ingénieurs, les designers, pour créer cette capacité à innover et à créer finalement ces projets qui font du sens.
Est-ce que vous souhaitiez... Oui, Younes Yakcha, vous...
Oui, je voulais rajouter en fait un petit coup de gueule là-dessus, parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir cette aide d'InnoSuisse, mais après, on voit pas mal de startups justement qui démarrent et qui lèvent 500 000 francs ou 1 million, 1 million 3 juste sur un business plan. Et le problème, c'est que...
Ce fameux business plan.
Et c'est vrai que souvent, on a affaire à des personnes qui sont ingénieurs EPFL ou ETH, et en fait, qui sont très bons dans le développement de produits, mais après, pour commercialiser, il n'y a plus personne. Donc pendant une année, deux ans, trois ans, ils vivent sous perfusion. Et au final, ça devient un cimetière d'innovation.
C'est là l'importance d'avoir des gestionnaires et des gens qui sont dans le business, qui accompagnent en fait des ingénieurs. Parce que sinon, exact. C'est des projets qui sont mort-nés, c'est clair.
Vous êtes
tout à fait d'accord avec vous deux.
Bah écoutez, si tout a été dit, vous restez là parce qu'on va se retrouver sur Carax, sur Radio Lac, pour la dernière partie de Parlons Économie.